Bonjour, bienvenue à l'épisode 6 du French Connection. Cette semaine, nous avons avec nous Steven.
Allô.
Et Damien.
Salut à tous.
Donc cette semaine, on est une équipe réduite. Patrick nous boude un petit peu cette semaine. L'essentiel de ce qu'on va discuter va être à travers ce que Damien a découvert en Europe.
Avec nos élections, tout à fait, ouais. Alors, il faut savoir que chez nous en France, tous les 5 ans, on a l'élection présidentielle. Et cette année a été, alors dans un terme vulgaire français, un bordel monstre. D'abord, avant le premier tour, hein, on a eu énormément de sites d'hommes politiques qui étaient faillibles, mais à des failles et des vulnérabilités complètement idiotes. Hein. En gros, des WordPress pas mis à jour pour certains depuis plus d'un an. Donc tout ça a fait un petit peu de rumeur, a surtout fait que tous ces gens-là se pensaient intouchables. Le problème, c'est qu'au deuxième tour, parce que chez nous, donc, on a 2 tours, et que pendant 15 jours, on a eu d'un côté Emmanuel Macron avec son groupe En Marche, et de l'autre côté, on a eu Marine Le Pen, donc c'est l'extrême droite française, avec donc, eh bien, par exemple, son site Marine 2017. Et ces deux-là se sont retrouvés soit attaqués, soit annoncés avoir été attaqués, et surtout, à la fin, mais quasiment en France, il faut savoir que 2 jours avant l'élection, il est strictement interdit de communiquer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les hommes politiques, ça veut dire que les journaux ne peuvent plus poser des questions à l'homme politique qui fait partie de ce second tour, à l'homme ou à la femme, bien sûr. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que le vendredi, donc 2 heures avant cet ultimatum hein, de stopper toute communication, par magie, des informations sont sorties par Internet. Alors, c'est 12 gigas de mails, de photos, de contenus, qui appartenait ou qui appartiendrait en tout cas à au moins 5 membres du groupe d'Emmanuel Macron. Alors ce qui est très intéressant, c'est que tout a commencé aux alentours de 20h. C'est d'abord l'Amérique, c'est d'abord les États-Unis d'Amérique qui ont diffusé l'information via un site et une personne très connue pour être un amateur de fake news, hein. Il avait d'ailleurs diffusé, entre autres, le Pizzagate. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était expliqué que l'un des proches de Hillary Clinton, lors des élections américaines, invitait des amis dans une pizzeria pour des actes pédophiles. Donc, bien sûr, ça, c'était du fake news qui a malheureusement, à première vue, bien fonctionné aux États-Unis. Et en France, ils ont exactement fait pareil. Là, en gros, un mystérieux pirate a diffusé sur 4chan, d'abord le jeudi 4 mai, 3 messages, 3 captures d'écran de soi-disant des comptes offshore, hein, des comptes au Caïman, d'Emmanuel Macron, donc ce qui voulait dire pour lui que l'argent était détourné et renvoyé donc à l'insu des impôts et en tout cas de l'administration fiscale et donc des gens qui devaient voter. Très vite, tout le monde s'est rendu compte que c'était du gros fake. Hein. Un exemple, l'une des captures écran qui était en PDF, bah, il suffisait de prendre InDesign, par exemple, ou un logiciel permettant de regarder comment était fait le PDF pour se rendre compte que c'était un vulgaire copier-coller de différents éléments. Donc ça, c'est très rapidement apparu au regard des gens. Mais c'est des malins. En fait, pour eux, ce premier avertissement sur 4chan et ensuite diffusé sur Twitter était un moyen de dire « Attention, tendez l'oreille, on en a beaucoup plus sous la cheville, vous allez voir, on va tout vous balancer. » Et effectivement, le vendredi donc, d'abord sur un Twitter donc américain, explication, voilà, on a les preuves que Emmanuel Macron est quelqu'un de dangereux pour votre pays, qu'il faut voter Marine Le Pen, etc., etc. Et là où c'était très malin, c'est qu'ils ont diffusé ça 2 heures avant donc le fait que plus aucun homme politique pouvait communiquer, et aussi la presse. La presse n'a plus le droit de parler des hommes politiques pendant ces 2 jours. Intéressant aussi, c'est que quelques minutes avant minuit, donc samedi minuit, eh bien, 3, 4, 5, 10 membres du parti politique du Front National, donc de l'extrême droite, mais aussi tous leurs partisans, ont tweeté, mais par milliers d'exemplaires, parce qu'ils ont fait appel à des bots en plus, qui retweetaient de manière à ce que le hashtag sur Twitter MacronLeaks apparaisse en tête de monde. Et du coup, ça a super bien fonctionné, parce que du coup, tout le monde en parlait, et surtout les tweetos, les twitteriens, ont tout rediffusé, sans vérifier. Bilan, le gouvernement ne pouvait rien dire, mais il y a une commission qui vérifie les élections françaises et qui a clairement envoyé un message en disant « Ne recommuniquez pas, c'est illégal. Ne le faites pas, vous n'avez pas vérifié les informations. Attention, vous allez peut-être perturber l'élection française. Attention, ne le faites pas. » Bien sûr, vous doutez bien que l'extrême droite ainsi que tous les gens amateurs de complot ont dit « Ah, voyez, le gouvernement veut vous faire taire. Non, continuons à diffuser. » Bref, tout ça n'a pas heureusement modifié l'élection française. Ce qui devait être fait a été fait. Emmanuel Macron a été élu. Le Front National et l'extrême droite n'ont pas gagné tant de voix supplémentaires. Mais la suspicion est donc apparue. Et c'est la première fois qu'une élection présidentielle, surtout en France, soit perturbée à ce point-là. Parce que là, clairement, c'est une élection 2.0. Ça a failli se jouer sur les réseaux sociaux. Et là, c'est impressionnant parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu effectivement piratage parce que En Marche et l'équipe d'Emmanuel Macron l'ont confirmé. Ils ont dit qu'effectivement, il y a quelques semaines, des comptes de leurs membres avaient été infiltrés. Alors, on avait du Gmail, bien sûr, donc ça veut dire pas de double authentification, encore moins de chiffrement des messages, mais ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'il va falloir les éduquer. Mais ils ont surtout expliqué quelques jours plus tard que tout ça n'était que des honnêtes. C'était un moyen d'attirer les pirates dans des chemins qui, donc, du coup, les a perturbés. Ne les incitez pas à aller voir ailleurs. Alors, si c'est vrai, pourquoi pas, ce sont des honnêtes, ça peut aider. Sauf que, heureusement qu'on a eu affaire à des idiots du village derrière, qui n'étaient pas doués du tout. Parce que, honnêtes ou non, s'ils avaient eu la main sur des comptes officiels de En Marche, ils auraient très bien pu s'en servir à des fins beaucoup plus malveillantes et beaucoup plus efficaces.
Donc, mais voilà, ça, c'est, gros... pas dit que... oui. Mais c'est pas dit qu'ils n'ont pas des vrais comptes dans les mains. Là. C'est juste, c'est sûr qu'une stratégie de communication de l'équipe de Macron de dire « Ah non, c'était juste des faux comptes ».
Ouais, clairement, il est là le problème. C'est que maintenant, on est incapable de savoir qui dit vrai. Le problème, et je l'espère en tout cas pour ce nouveau président de la République française et de ses membres qui ont été piratés, c'est qu'effectivement, il n'y avait bien que des messages vraiment pas intéressants. Il faut espérer qu'effectivement, les pirates n'ont pas volé d'autres choses et surtout, à partir de ces comptes, ils n'ont pas infiltré d'autres lieux, d'autres endroits. Là, on en reparlera. À première vue, non, parce que après, les pirates entre guillemets qui ont attaqué n'ont pas l'air d'être véritablement doués, mais rien n'empêche de penser qu'ils ont peut-être eux-mêmes été manipulés et que les vrais, en tout cas ceux qui ont les moyens d'être beaucoup plus malveillants, attendent peut-être leur moment.
Ouais, c'est sûr, mais de toute façon, en regardant ce que les Russes ont été capables de faire avec l'élection américaine, il n'est pas dit qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher beaucoup plus d'informations et attendre peut-être un autre moment dans ce cas-ci pour vraiment avoir effet, parce que le peuple français n'est pas le peuple américain, ils n'ont pas les mêmes regards sur les choses, ils n'ont pas la même mobilité sur l'effet sur le vote aussi.
Tout à fait. Ouais, et puis surtout qu'ils ont particulièrement, perpétuellement, pendant toute l'élection, mais ça c'est par rapport au message que les États-Unis ont envoyé perpétuellement, tout le monde a montré du doigt les Russes en disant « Attention, les grands et dangereux pirates russes vont attaquer l'élection française ». Mais en regardant d'un petit peu plus près, c'est qui a vraiment mis en place tout ce barnum ? Eh bien, c'est l'extrême droite américaine. On n'a pas vu véritablement de pirates russes ou en tout cas de ressortissants russes mettant tout ça en avant. Non, on a deux comptes de journaux particulièrement bizarres aux États-Unis qui, eux, ont plutôt joué le jeu en disant « Allez, vous allez voir, on va mettre la pagaille ».
Ouais, ben ça, bien évidemment, il n'y a pas eu d'effet direct au moins de niveau communication comme eu dans la campagne américaine. Pour ce que j'en sais, par contre, je sais que les Russes sont très actifs ou du moins des adresses qui arrivent de la Russie, en supposant que c'est peut-être pas nécessairement eux autres, qui ont effectivement été très actifs durant la campagne française. Mais aussi, il faut comprendre que la relation de la France à la Russie n'est pas la relation des États-Unis avec la Russie non plus. Et les leviers de contrôle que la Russie peut avoir sur la France ne sont pas les mêmes que les leviers qu'ils ont sur les États-Unis. Donc, supposons que les Russes soient très intéressés à tout ça, ils vont procéder par d'autres chemins pour influencer la France, peut-être même à posteriori des élections au lieu de les influencer avant.
Tout à fait. Et il faut savoir, parce que là, il faut quand même modérer aussi ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mars, fin mars, le Front National, l'extrême droite française, a eu aussi son site internet attaqué. Hein. Là, à coup de DDoS, hein, des denial of service. C'est simple. Hein, quelques internautes ont trouvé des logiciels qui vont bien, voire même peut-être payer des stresseurs hein, en mettant quelques euros, quelques dollars sur la table pour bloquer. Ça a été en tout cas une sacrée pagaille sur internet, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les sites internet. J'avoue que ce n'est pas rassurant parce que ces gens-là qui veulent nous gouverner, à première vue, ils n'ont pas véritablement le numérique dans le sang et pourtant, c'est ce qui va nous faire vivre depuis et qui va nous faire vivre à partir de demain, hein, si ce n'est aujourd'hui déjà.
C'est inquiétant dans la mesure où ces gens-là qui arrivent, puis ça, on a déjà discuté dans un épisode précédent, n'ont pas, et dans leurs équipes de campagne, aucune connaissance de ce que des enjeux numériques ou des enjeux de la sécurité numérique ou toute la fluidité de l'information, la fluidité de ce qui se passe et les protections inhérentes qui vont avec ce genre de choses-là.
Pour l'équipe Macron, il faut savoir qu'ils avaient l'un des anciens responsables du conseil numérique, donc quelqu'un qui s'y connaît particulièrement bien, en tout cas qui s'y connaît particulièrement bien dans tout ce qui est réseau, l'Internet, etc. Alors après, question sécurité informatique, Le problème, c'est que tout ça est une stratégie loin d'être négligeable. Il y a l'un des candidats qui s'appelait Dupont-Aignan, qui d'ailleurs a rejoint ensuite pour le second tour le Front National. Il m'a dit par ses équipes qu'il avait lui mis cette année un budget dédié uniquement à la sécurité informatique. Ça n'a pas empêché que son site internet avait aussi des failles. Hein.
Bah, c'est quand même intéressant dans ce moment-là que ces gens-là mettent les investissements nécessaires. On ne peut pas en parler autant de notre côté de l'océan parce que les équipes ici n'ont pas l'air d'être aussi éveillées à ce genre de choses-là, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe du point de vue européen.
Voilà, donc là, c'était la grosse information de ce mois, hein, les gars. Hein, donc, à vous le Grand Nord.
Ça m'étonne toujours à quel point que les gens tombent dans le fake news. Oh wow, je l'ai lu sur Internet, ça doit être vrai.
C'est ça le problème, c'est que les gens cliquent. Ben, aujourd'hui, on voit Twitter, par exemple, ou Facebook. Hein. Qu'est-ce qui plaît aux gens? Un titre un petit peu racoleur, donc un putaclic, comme on appelle ça chez nous, et une photo. Et donc, plus la poitrine est grosse sur la photo, et plus les gens y croient. C'est terrible.
Ça fait des décennies, cette tactique-là fonctionne. Regarde les tabloïds, etc., avant même l'Internet, là, tout. Quand c'était un des journaux, tu sais, où on se souvient du papier, avec de l'encre dessus. Certainement qu'on faisait vendre des journaux, puis le monde, là, je me semble, croyait ça un peu moins.
Et puis là, ce qui est très fort aussi, c'est qu'ils ont fait appel à des enfants, à des adolescents. Il y a un site internet en France qui est dédié aux jeux vidéo, et sur les forums de ce site de jeux vidéo, il y a donc des mômes, et plusieurs messages ont fait de manière à ce que les gamins, les adolescents, retweet les informations sur le Macron Leaks. C'était aussi un moyen, parce qu'on sait très bien que le môme, il ne va pas vérifier. Au contraire, il est même plutôt content de jouer à cette espèce de jeu de taper sur tout ce qui bouge. Et ça a été utilisé, ça aussi. Et je pense qu'éduquer nos mômes, nos petits frères, nos grands frères, ou en tout cas nos gamins sur l'Internet, hein, nos gosses, comme dirait chez vous, c'est surtout un moyen de leur dire « Faites attention, faites pas n'importe quoi. » Parce qu'un de ces quatre, ça va nous retomber sur le coin du nez et ça va plutôt être gênant. Hein.
Ouais, surtout étant donné qu'est-ce qu'on vous dit tantôt, tout ce qui est digital, l'Internet, le monde digital fait partie intégrale de nos vies. On est tous fins de s'en servir comme il faut et l'apprendre comme du monde aussi. Ah, ouais. Oh, wow, ça m'étonne tout le temps.
Non, parce que c'est effectivement très fascinant là, tout ça, là, à quel point les gens sont malheureusement un peu ignorants face à ces choses-là. Ils ne font même pas l'effort minimal de vérifier la crédibilité des sources.
Bah déjà qu'ils ne vérifient pas les sources, alors imaginez quand on leur demande de vérifier éventuellement un patch à mettre dans Microsoft, par exemple.
Ouais, ça a été, disons, assez brutal à la fin de cette semaine, puis je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas présents sur le podcast aujourd'hui, justement parce qu'ils doivent travailler d'arrache-pied, de corriger les problèmes qui sont liés à ça.
Bah surtout que tout le monde va reprendre le boulot lundi, tout le monde va reprendre le travail lundi, et si l'informatique n'est pas corrigée correctement, ce qui a pu s'infiltrer pourrait se relancer lundi. Donc, je pense qu'effectivement, travailler tout le week-end, certains doivent apprécier l'humour.
Ah, moi, je sais, j'apprécie le fait que je ne travaille plus là-dedans. C'est une job. Excusez. Désolé.
Mais Guillaume n'avait pas l'air très partagé ton...
Non, je sais.
Ton plaisir, pas... parce que lui, il est directement là-dedans, là.
Oui, non, c'est vraiment... Non, je mes sympathies pour tous les gars anti qui sont obligés de patcher des vieux Windows XP à cause de raison. Non, c'est sûr, c'est pas drôle du tout, mais... Ouais.
Enfin, tu crois vraiment que Patrick est en train de patcher quelque chose, là? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein?
Non, ben, non, on parle pas de Patrick, on parle de Guillaume.
Patrick, il est en train de patcher quelque chose, théoriquement, il est en train de patcher quelque chose, non?
En quelque sorte, mais c'est plus avec ses mains, c'est plus manuel que de faire des tests de système et corriger les bugs et les vulnérabilités.
Okay. Est-ce qu'on parle de ce qui s'est passé dans les, en fin de compte, 48 dernières heures avec, c'est WannaCry, WannaCrypt, etc., ou on continue une belle discussion sur les politiques françaises? Moi, j'adore...
C'est un bon moment, on a déjà commencé à glisser vers WannaCry.
Ouais, parce que là, côté actualité française, justement, là, on peut maintenant carrément glisser vers WannaCry, hein, parce que au début, vendredi, on disait « Oh, ça n'a touché que le Royaume-Uni, que le Taïwan, la Russie. » Là, aujourd'hui, on a 100 pays. dont la France. Hein. Donc, avant que vous parliez de vos zones à vous, chez nous en France, vendredi, on n'était pas touché. Et puis là, au fur et à mesure, on découvre que, par exemple, l'un des plus gros constructeurs automobiles, hein, qui est Renault, a dû fermer deux usines par précaution. En gros, il y a deux usines qui fabriquent des voitures qui ont dû être fermées, si ce n'est plus, qui ont été fermées. Donc, on ne construit plus rien parce que le code malveillant il doit se prôner quelque part et qu'ils sont en train de vérifier que ce n'est pas en train de tout détruire, quoi.
Ah, bon, moi, c'est par précaution. C'est une bonne idée. Ils ont décidé de mettre leur portefeuille de côté et de dire bon, on va essayer de protéger nos choses avant qu'on se fasse frapper.
Ben, pas le choix. Hein. C'est Telefonica, c'est un opérateur téléphonique en Espagne qui a lui aussi demandé carrément à tous ses employés de fermer les ordinateurs jusqu'à nouvel ordre. Parce que je pense que tout le monde a été submergé par cette attaque et qu'ils se sont dit on ne va pas tout perdre parce que là, c'est déjà véritablement un sacré problème. Sachant quand même, faut-il le rappeler, que tout ça se patchait depuis deux mois.
Hein. Ouais. Pour ce qui est des systèmes d'opération récents, parce que le problème qui était avec ça, puis donc ce qui est arrivé en Angleterre, principalement au NHS, c'est que tous les systèmes embedded embarqués utilisent encore des Windows XP en dessous, et eux n'ont pas pu être patchés, puis Microsoft a sorti en urgence un correctif cette semaine, justement, pour adresser ça.
En tout cas, Microsoft sort une page de sécurité pour XP, c'est gros. C'est configure all over again.
Puis ce qu'il faut, c'est de se dire que quand même tout ça est parti de quoi? Du piratage des hackers de la NSA, que personne n'a voulu payer les failles que le Shadowbroker s'avait volées. Il a tout diffusé il y a deux mois, et là, on peut se douter qu'il y en a certains qui préparent d'autres attaques, hein, parce qu'il n'y avait pas qu'une seule faille. Hein.
Il y en a des masses.
Ben, des Solaris, d'autres trucs Windows aussi. Oh, ça sera pas beau les prochains mois.
Mais je trouve que le turnover est assez lent parce qu'on voit de la mécanisation beaucoup plus rapide que ça en général maintenant. Puis j'aurais pensé qu'à l'intérieur d'un cycle de 24 ans, on l'aurait vu sortir, mais là, ça a pris à peu près un mois et demi avant de voir une weaponization, un armement associé avec ces vulnérabilités-là.
Moi, je sais, à peu près une semaine après que le Shadow Broker il y avait déjà des cancans de ransomware qui étaient en train de utiliser en utilisant Eternal Blue. Mais là, avec ce qui s'est passé dans les deux derniers jours, ça s'est confirmé. Mais je ne sais pas, c'était juste des histoires, des rumeurs qu'il y avait déjà des ransomware qui se faisaient pitcher à gauche et à droite avec cet exploit-là.
Ils ont obligatoirement testé, hein, parce que pour lancer leur attaque comme ils ont fait vendredi, leur seule erreur est d'avoir oublié d'enregistrer un nom de domaine.
Je pense que d'après ce que j'ai lu, il faudrait que je cherche les liens, puis j'enverrai ça là, à Nick. Que c'est justement une fois que l'URL était actif ou était acheté, c'est à ce moment-là que le ransomware arrêtait. Fait qu'à quelque part, il devrait pas l'acheter. Il n'était pas supposé de l'enregistrer jusqu'à temps qu'il voulait l'arrêter.
C'est très compliqué de savoir véritablement ce qui s'est passé. Parce que je vois justement l'auteur, là, il expliquait qu'en fait, non, ça a été. C'était pas à cause d'eux, etc. Enfin, c'est très bizarre en tout cas ce qui s'est passé. Hein. Ça a fait bouger des gens, j'espère que ça fera réfléchir. Malheureusement, j'ai comme un doute. C'était le week-end, voilà quoi.
le timing de la sortie est assez phénoménal. De toute façon, un vendredi, là, c'est
bien. Hein,
c'est pour emmerder tout le monde.
C'est ça.
c'est définitivement du monde en TI qui ont fait ça.
peut-être du monde amer en TI qui a dû travailler des fins de semaine puis ils veulent faire payer les autres.
C'est ça. Tiens, j'ai mis le lien justement avec le site du chercheur de 22 ans qui a expliqué comment il avait, en tout cas lui, acheté le nom de domaine et ça aurait pu peut-être, à cause de ça, lancer l'attaque. Bon, à voir.
Oui, ok. Moi, je pense que je sais de quel tu parles, justement, c'est probablement le même que j'ai lu.
Ouais, parce qu'on a quand même, on nous a quand même expliqué, c'était 5 millions de mails à l'heure. Hein. Le problème aussi de ce genre d'attaque, c'est la mainmise des éditeurs de logiciels de sécurité informatique qui ont tous sauté sur l'occasion pour dire « Oh là là, c'est une énorme attaque !» Et la majorité disait « Ah oui, mais nous, notre solution, elle vous protégeait. » Il est là aussi le problème, c'est qu'on ne sait pas véritablement où est le vrai du faux. Hein.
Tu peux répéter ça, notre solution va vous protéger. Qui a dit ça?
Alors, je t'avoue que j'ai pas les noms là en tête, hein, mais j'ai moi j'ai reçu en fait plusieurs communiqués de presse de différents éditeurs sur, on va dire, la dizaine que j'ai reçu. Il y en avait 4-5 déjà qui disaient ah ben nous, nos clients, ils avaient strictement aucun problème. Il suffit qu'ils aient leur logiciel qui fait patcher les clients. Hein.
Ouais, ouais, non, c'est... moi je sais qu'à ma job, que je m'en tiendrai pas, on a reçu un genre de communiqué officiel d'un antivirus, une compagnie antivirus que je mentionnerai pas, disant que nous autres, notre whatever protège contre Eternal Blue qui exploite la version 2 de SMB, qui est pas vrai, c'est SMB 1.
Ah, il y a Patrick qui rentre.
Désolé, je pense qu'il y a un feu dans ma région. Bref, c'est antivirus. La compagnie d'antivirus disait que notre produit protège contre Eternal Blue et protège contre ce ransomware-là. Puis je disais, là, le communiqué officiel, c'est comme, Eternal Blue exploite pas ça. Ça exploite une autre version d'SMB. Ouais, ça se peut que ça protège contre ton ransomware, mais si les gens ont patché correctement, à quelque part, ton produit vaut rien. Ça aurait rien fait en tant que tel, mais bon.
La sécurité, c'est un ensemble de mesures. C'est pas, lui, il se vante de faire une affaire, mais pour avoir eu des systèmes très efficaces puis avoir eu des gens qui travaillent en sécurité de façon beaucoup plus sophistiquée, c'est pas juste un, c'est pas juste l'antivirus, c'est l'anti-spam, parce qu'il y a beaucoup de spam qui rentre par ça. Fait que si, déjà, si ton anti-spam, il va garder arrêter la première couche, si t'as pas de deuxième couche pour l'arrêter, t'es mort. Fait qu'il faut peut-être plusieurs étapes de vérification pour espérer qu'au moins une de ces étapes-là va mener à stopper
c'est une depth, tu vois, ça c'est vrai, mais c'est que quand tu as une compagnie, bon, dans les risques, ils disent « Ah, ben tu sais, nous, on t'aurait protégé de tout. » C'était comme ça que c'était comme... c'était même que c'était écrit.
C'est encore le rêve ultime qu'on est capable de faire avec un seul produit, faire l'ensemble des choses, qui est complètement faux, là. T'sais.
Ah ouais, non, c'est juste, je sais pas, c'est peut-être moi qui se décourage facilement ces temps-ci. Les gens qui sont pas capables de comprendre c'est quoi du fake news, qui sont pas capables de comprendre que c'est à cause que c'est sur Internet que c'est pas vrai, que c'est pas juste une solution qui va protéger ton ordinateur. D'ailleurs, la seule solution qui va protéger ton ordinateur, c'est de l'éteindre.
Bon, ultimement, oui. Mais Damien, t'avais un autre sujet, toi, avant de...
Ouais, de boucler. Ce qui est intéressant, là, j'ai découvert. Alors, en France, on a, et en Europe, on a un site de vente en ligne qui s'appelle Le Bon Coin. Alors, c'est un site de petites annonces, hein, très connu, qui reçoit des millions de clients. Et j'ai découvert, en fait, que le site avait été détourné dans le black market. En gros, aujourd'hui, un gars, il a copié l'intégralité du site. L'officiel, lui, vend des voitures, il vend des chiens, des jeux vidéo, des meubles, ce que tu veux. La version black market, elle te vend des faux papiers, elle te vend de la drogue. C'est en train de rendre fou, d'ailleurs, le vrai site Le Bon Coin, parce que, bah, du coup, c'est usurpation d'identité, et puis surtout son image. J'ai des gens, moi, qui m'ont contacté en me disant « Mais vous avez vu, ils ont ouvert un site qui permet de vendre des choses un peu bizarres comme des faux papiers ». Autant dire que l'Internet aujourd'hui, c'est aussi ça. Hein. Il y a des populations qui ont compris qu'ils pouvaient tout détourner à des fins malveillantes. Parce que le ransomware, là, après tout, c'est quoi ? Le fin du fin, c'est que les gars veulent gagner de l'argent sur le dos des gens. Les fake news, c'est quoi ? C'est que les gens cliquent sur n'importe quoi pour faire de la page vue. Bref, je ne sais pas comment ça va se tourner tout ça, mais je pense qu'il va falloir éduquer, continuer à éduquer de plus en plus, et surtout les plus jeunes, parce qu'eux, ils sont noyés par le clic. Hein. Je clique, je vois, j'ai vu, ils sont déjà partis ailleurs. Leur faire comprendre qu'il faut réfléchir, ça va être un peu compliqué quand même. Hein?
Ça va être une galère. Mais on manque beaucoup parce que les générations, moi je regarde dans le fond ma génération qui ont maintenant des jeunes des enfants préadolescents qui commencent à utiliser Internet de façon massive. Si moi je fais l'effort de savoir ce qu'ils font avec Snapchat, savoir ce qu'ils font avec Pinterest, savoir ce qu'ils font avec tous les outils qu'ils ont dans les mains et des éduqués, je peux pas dire autant pour tous les parents qui sont autour de moi. Ouais. Les enfants de
je fais pas mal de conférences bénévoles dans des écoles. Donc moi, c'est ça. Allez, on va dire que je fais des conférences de 11 ans à 15 ans. Et je fais aussi des conférences pour les parents parce que du coup, c'est intéressant que les parents voient ce que font leurs gamins, hein, leurs enfants, leurs adolescents. Les parents sont totalement dépassés. Pour eux, ils pensent que leurs gamins ou leurs enfants sont sur Facebook, Twitter. Ils n'ont jamais eu l'idée qu'il y avait peut-être d'autres réseaux sociaux. Ils ne comprennent pas qu'il y a énormément d'enfants qui vont sur le streaming pour regarder des vidéos parce que c'est sympa. Et après, on s'étonne que la grande majorité des jeunes enfants ont déjà vu des films pornographiques. C'est aussi les parents à éduquer, hein, clairement. Mais je pense qu'en fait, nous, internautes, même les anciens comme nous, hein, qui vivons depuis très longtemps, je pense que les gens devraient se remettre en question, mais quasiment à chaque fois qu'ils se connectent, pour se dire que c'est comme la voiture, c'est comme quand je me promène dans la rue, je découvre toujours quelque chose. Je ne dois pas me dire « je sais parce que j'ai vu ». Non, avec les réseaux des réseaux, avec les internets, on voit et il faut continuer à apprendre et à se dire « est-ce que je suis vraiment bien au courant ?» Enfin voilà, c'est se former. C'est la vie qui devrait être aussi celle numérique et ce n'est pas gagné. Hein.
Ah, ben c'est tout un nouvel univers. Les gens sont complètement dépassés par ça. C'est une révolution qui est beaucoup plus grande que de l'arrivée de la télévision dans les maisons. Énormément. Très intéressant. On va enchaîner avec les shameless plugs. Je sais que Damien, t'en as une.
Oui, très importante. Disons que... alors, nous, on le fêtera à Québec lors du Hackfest au mois de novembre. Mais c'est, Zadtaz va avoir 20 ans au mois de juin. Ça y est, je vais être enfin majeur. En fait, Zadtaz a eu véritablement 25 ans parce que pour ceux qui se souviennent de l'époque de l'Amstrad, où on travaillait sur disquette, j'ai lancé Zadtaz, moi, il y a plus de 25 ans. Et sur Internet, il aura 20 ans, là, au mois de juin. Donc voilà, un vieux blog qui essaye de se tenir au goût du jour. Donc on fêtera ça, vous verrez, à Québec. Et le mois prochain, dans le prochain podcast, où je devrais avoir quelques cadeaux pour les auditeurs.
Ah, super intéressant. Mais d'ailleurs, en parlant du Hackfest, le Call for Paper est ouvert déjà depuis un certain temps. Donc pour tous ceux qui sont intéressés à présenter. Et il y a le IAC qui va être démarré le 10 juin. Donc, si vous voulez participer, vous êtes invité.
Ouais. Il y a vas-y, continue. Oui. Je finirai.
Aucun problème. Que je parlais que le IAC a plusieurs antennes dans plusieurs régions. Donc, si en avez une dans votre région, vous pouvez participer localement sans avoir besoin de vous déplacer.
Ouais, alors justement, au mois de novembre, j'ai proposé plusieurs calls, dont un qui parlera justement des Macron Leaks et aussi de ce qui arrive là chez nous dans un an en Europe et donc en France, le 28 mai 2018. C'est ce qu'on appelle, nous, la RGPD. C'est le nouveau règlement des données privées. Et justement, au Hackfest, au mois de novembre, j'expliquerai comment en France, les entreprises vont se retrouver être obligées de prévenir leurs clients, par exemple, en cas de fuite, en cas de piratage, en cas de perte de données, ou simplement parce que quelqu'un a consulté qui n'avait pas l'autorisation. Et ça, je crois que c'est indispensable.
Très intéressant. Parce que ça va emboîter le pas avec le Canada qui vient de démarrer. C'est le même genre de législation-là, il y a très peu de temps. Ben, c'est parfait, messieurs.
Est-ce que je peux juste mentionner un petit quelque chose que je viens de voir sortir sur Twitter?
Bien sûr.
Il y a un nouveau module Metasploit qui vient de sortir pour Eternal Blue 100, Double Pulsar. Fait que les gens qui n'ont pas été capables de faire fonctionner le dump de Shadow God Brokers vont pouvoir maintenant.
Fait que, c'est ça.
Pas de progrès. C'est parfait. Merci, messieurs. Ça a été un plaisir d'enregistrer avec vous
bon
aujourd'hui.
Courage. On se dit au mois prochain.
Ouais.
Au mois prochain.
I am.